Bruit de fond.
Bruit de fond.
L'émission sur l'écologie de Radio Campus Grenoble.
Parce que la planète mérite d'être entendue.
Pour comprendre ce qui se joue près de chez nous et plus loin.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Bruit de fond, l'émission consacrée à l'écologie de Radio Campus Grenoble. Ce matin, nous parlons de la pollution de l'air, un sujet invisible qui a pourtant de lourdes conséquences sur notre santé. Pour nous en parler, nous accueillons aujourd'hui Camille Rieux, responsable de l'unité qualité de l'air à la métropole de Grenoble. Bonjour Camille.
Bonjour.
Et Gaëlle Usu, vous êtes géochimiste de l'atmosphère et en poste à l'Institut des géosciences de Grenoble. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Ella pour animer cette émission. Alors avant de commencer, on va laisser la parole à nos chroniqueurs de l'association universitaire qui vont nous expliquer un drôle de lien entre la pollution atmosphérique et le rôle des lichens. Je leur laisse la parole.
Le bruit de la Terre.
Le bruit de la Terre.
Sounds of the Earth. A monthly chronic.
La chronique mensuelle d'universitaire.
L'association étudiante de sensibilisation aux enjeux environnementaux.
A student association focused on ecological awareness and sustainability.
Hello, c'est Universitaire pour le bruit de la Terre, l'association étudiante pour la sensibilisation aux enjeux environnementaux. Aujourd'hui, on va parler d'une espèce qui est un peu partout autour de nous, les lichens, qui peuvent nous apprendre beaucoup sur notre environnement et la qualité de l'air ici à Grenoble. Et nous avons le plaisir d'accueillir Sydney pour nous expliquer cette recherche. Salut Sydney.
Salut. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une recherche passionnante sur la pollution de l'air à Grenoble, menée dans le cadre du programme Terra à l'Université de Grenoble.
Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce programme Terra, en particulier sur le Junior Environmental Observatory?
Le Junior Observatory est un module d'apprentissage par la pratique qui vise à suivre des paramètres environnementaux et sociaux. Par exemple, la biodiversité, les flux d'énergie, la pollution, les matières premières, la qualité de l'eau et de l'air, les émissions de CO2, etc. Pertinent pour définir des politiques locales d'atténuation du changement climatique et garantir une transition écologique bien définie. Ce Junior Observatory se déroulera pendant toutes les durées du programme Terra, soit 8 ans.
D'accord, c'est vraiment intéressant. Et comment les étudiants l'ont utilisé pour étudier la pollution de l'air à Grenoble?
C'est une excellente question. Ces trois dernières années, les étudiants ont choisi d'utiliser les lichens pour suivre l'évolution de la qualité de l'air.
Mais c'est quoi un lichen exactement?
Un lichen est en réalité un organisme symbiotique formé par un champignon et une algue ou une bactérie. Le champignon offre à l'algue protection et un abri. Et en retour, l'algue utilise la photosynthèse pour transformer la lumière du soleil en nourriture pour le champignon. C'est une situation gagnant-gagnant.
Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre sur la pollution de l'air?
Les lichens sont des bio-indicateurs, c'est-à-dire des organismes capables de fournir des informations sur la qualité de l'environnement comme la qualité de l'air. Dans ce cas précis, les lichens sont très sensibles aux variations de la qualité de l'air et la présence de différents espaces peut indiquer le niveau d'azote dans l'air. De plus, leur croissance lente en fait un bon indicateur des changements de la qualité de l'air sur une longue période.
Mais quel est le lien entre l'azote et la pollution?
Le NO2, le dioxyde d'azote, est l'un des principaux polluants atmosphériques en ville et la principale source est le transport, notamment des voitures. Certains espaces de lichens se développent particulièrement bien dans les environnements riches en azote. On les appelle nitrophiliques. Leur présence sur les arbres indique un environnement fortement pollué. À l'inverse, d'autres espaces ne poussent que dans des conditions très pures et pauvres en azote. Elles peuvent nous indiquer les zones où la qualité de l'air s'est améliorée.
Ah, c'est chouette. Et comment, qu'est-ce que vous découvrez dans leur étude sur le terrain, sur le campus?
Les étudiantes ont utilisé un protocole spécifique appelé LichenGo. Ils ont sélectionné des arbres, répondre à des critères précis, puis analysé ces arbres afin d'identifier les différents espaces de lichens. Lors de prévalence sur des arbres dans le quartier de Sommetendère, 4 espaces de lichens ont été identifiés. Elles sont associées à une forte concentration d'azote dans l'air et présentes dans certains polluants, comme le monoxyde et le dioxyde d'azote, à des niveaux élevés.
Oui, ça fait sens, surtout que le quartier de Saint-Martin-d'Hères est très fréquenté et urbanisé.
Exactement. Ce projet a pu utiliser les protocoles et prélever des échantillons dans plusieurs endroits de Grenoble afin de collecter des données sur la biodiversité des espaces de l'écran. Il permettra de suivre l'évolution de la qualité de l'air au cours des prochaines années.
Ah, ça a l'air vraiment intéressant. Et en tant qu'étudiant, est-ce qu'on peut participer au projet?
Oui, chacun peut partager ses observations sur le site du projet LichenGo en ligne. Et observez votre environnement et essayez de repérer les lichens de différentes couleurs sur les arbres et les murs. Généralement, les couleurs orange-vif indiquent des niveaux de pollution élevés. Le programme Terra a travaillé à la création d'un protocole plus accessible afin que chacun puisse devenir un expert en lichens et s'engager dans la science citoyenne. Restez connectés.
Merci beaucoup pour votre attention, merci Sydney, et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique.
Merci à nos amis d'universitaires pour cette chronique des plus surprenantes. Celle-ci tombe d'ailleurs à pic car nous allons aujourd'hui parler de pollution atmosphérique, donc avec Gaëlle Usu et Camille Rieu. Peut-être pour commencer un petit peu l'émission, Gaëlle, toi qui es géochimiste de l'atmosphère à l'Institut des géosciences de Grenoble, est-ce que tu peux un petit peu... nous expliquer ce qu'on entend derrière le terme pollution de l'air, comment est-ce qu'on peut le définir?
Alors c'est un terme très vaste. Ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est la pollution atmosphérique, il n'y en a pas une, mais il y a des pollutions atmosphériques. D'une façon générale, ça va être le fait d'introduire pendant un temps donné, dans une quantité donnée, des polluants qui peuvent dégrader notre environnement et la santé. Et ces polluants, ils vont être émis par différentes sources. Et ces sources, elles peuvent être ou naturelles ou émises par l'homme. Il faut savoir que les sources naturelles qui contribuent plus à la pollution de l'air, ce sont les volcans, par exemple. Ce sont aussi les embruns marins, parce qu'ils font partie de la concentration qu'on va retrouver dans l'air. Et puis, de façon principale, dans les zones urbaines, eh bien, la pollution générée par l'homme, ça va être principalement via le trafic routier, mais aussi, en ce qui nous concerne à Grenoble, le chauffage au bois. Non performant en général.
Oui, donc ça, c'est un petit peu les principaux facteurs. J'allais justement te demander quels sont ces facteurs, mais tu as dû devancer la question. Mais peut-être aussi dire les facteurs dont on n'a pas forcément conscience. J'avais notamment entendu dans une de tes précédentes interviews que tu avais dit que les plaquettes de frein, par exemple, elles émettent du cuivre. Donc peut-être que tu peux un peu préciser ça, parce qu'on pense souvent à véhicules thermiques, oui, quand on pense... la pollution de l'air?
Oui, alors en fait les sources, elles sont vraiment multiples. Il faut savoir qu'au niveau donc, des véhicules, les véhicules, quand on parle de véhicules thermiques, on a ce qui va sortir à l'échappement. Et là, en fait, ça va être principalement des gaz associés à aussi des particules qui sont plus importantes lorsqu'on a des véhicules diesel et puis des hydrocarbures. Et puis, il y a une autre pollution qu'on appelle la pollution diffuse, ou alors ce qu'on appelle les non-exhaust emissions, qui sont le fait que lorsqu'on freine, eh bien, l'abrasion des freins et des pneumatiques sur nos routes vont générer aussi des particules un peu plus grosses qui ont des impacts potentiels sur la santé, puisqu'on sait que le cuivre, notamment dans les plaquettes de frein, a une capacité à créer du stress oxydatif dans les poumons. C'est la même chose pour les additifs qui sont contenu à l'intérieur de ces pneumatiques. On a récemment entendu parler de la pollution à Annecy, notamment qu'on a retrouvée dans le lac, et ce sont ces mêmes additifs que l'on peut retrouver dans l'air et que l'on dose dans notre laboratoire. Mais ça fait partie, c'est que la source du trafic véhiculaire. Il faut savoir que quand par exemple on émet du bois, quand on brûle du bois, si on brûle de la cellulose, bien ce qu'on va retrouver dans l'atmosphère, c'est du lévoglucosant. C'est un sucre qui va être émis lors de la combustion de la cellulose. Et en fait, on essaye, pour chaque source qui va exister, on essaye de trouver des bons traceurs pour essayer de la quantifier. Mais il y a aussi des sources en air intérieur. Quand vous faites de la cuisine, eh bien, vous allez émettre du cholestérol, mais aussi des particules dans votre cuisine, par exemple. Donc, c'est des choses qui sont très multiples. C'est pour ça qu'il n'y a pas une pollution atmosphérique et qu'elle est unique en tout point de la planète. Et si, pour essayer de se la représenter, si vous essayez d'imaginer un mètre cube, vous prenez un mètre sur un mètre autour de votre tête, il faut que vous imaginiez qu'il y a environ 100 000 composés différents qui sont à même d'être respirés, que vous allez respirer dans la minute qui vient.
Oui, et donc il y a vraiment de multiples pollutions de l'air, finalement, comme vous venez d'expliquer. Et donc vous, vous travaillez précisément sur les indicateurs qui permettent de mesurer et d'évaluer la qualité de l'air. Donc peut-être expliquez-nous simplement comment est-ce qu'on mesure cette qualité de l'air ?
Alors, il y a d'un point de vue réglementaire, la qualité de l'air, elle est basée sur des réseaux de stations de mesure qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Et c'est des données qui sont analysées quotidiennement avec un indice officiel en France qu'on appelle l'indice ATMO qui va être basé sur 5 polluants et qui vont de bon à extrêmement mauvais. Et on prend le plus, on va prendre le plus, celui qui a la concentration la plus haute par exemple, c'est ça qui va définir l'indice. Donc en fait, si vous avez 5 polluants, si vous avez 4 polluants qui sont bons mais un qui est extrêmement mauvais, ben l'indice sera extrêmement mauvais. Donc ça, c'est d'un point de vue réglementaire. Et puis, nous, en recherche, en fait, eh bien, on va aller mesurer ce qui n'est pas réglementaire. On essaye de faire progresser les connaissances. Et donc, quand vous parliez d'indicateurs, eh bien, à Grenoble, une des spécificités de mon équipe, ça a été de développer des indicateurs qu'on appelle le potentiel oxydant, qui regarde la capacité des particules à venir oxyder les poumons, comme un proxy de l'impact sanitaire. Et on a la chance d'avoir, de suivre sur Grenoble, on a une cohorte couple-enfant qui est suivie maintenant depuis 8 ou 10 ans sur l'agglomération où on regarde la santé respiratoire des enfants qui ont été recrutés dès le stade de grossesse de leur maman. Donc ça fait 10 ans maintenant qu'on les suit et on couple ces indicateurs avec le fait qu'ils puissent aujourd'hui développer des affections de santé. Voilà.
Et donc justement, qu'est-ce que ce potentiel oxydant, il change vraiment par rapport à l'indice ATMO ? C'est quoi la différence la plus frappante ?
Alors en fait, dans un indice ATMO, vous avez, quand on parle de la quantité de particules dans l'atmosphère, eh bien, vous ne savez pas si une quantité, 1 microgramme de plomb ou 1 microgramme de plume, c'est toujours 1 microgramme. Et donc, en fait, si vous respirez 1 microgramme en bord de rocade de particules, ce n'est pas le même microgramme que vous allez mesurer dans la forêt au col de porte. Et non plus le même microgramme que vous mesurez au bord de l'océan. Et en fait, cet indicateur, lui, il est capable de dire, est-ce que le microgramme que vous avez mesuré, est-ce qu'il va générer du stress oxydatif dans vos poumons et est-ce qu'il va ensuite inflammer les poumons et être à l'origine de problèmes respiratoires ou aigus ou chroniques. Et c'est ça qu'on regarde. Et en fait, il vient de rentrer comme mesure recommandée dans la nouvelle réglementation qui a été adoptée l'année dernière et qui est en train d'être transcrite dans le droit français et qui va être mise en œuvre le 11 décembre 2026. Et après, ce sera à Camille de prendre les rênes et de faire en sorte que les niveaux qu'on observe à Grenoble soient les plus bas possibles.
Oui, bah c'est bien, justement, on parlera un petit peu plus tard dans l'émission, pas tout de suite, un petit peu de la collaboration entre scientifiques et politiques publiques, parce que forcément, il y a un gros lien. Mais avant ça, on voulait quand même vous poser une petite question. Alors, on n'a pas de médecin aujourd'hui en plateau, mais avant, Gaëlle, tu as pu parler des problèmes respiratoires qui sont induits par la pollution de l'air. Donc, quelles sont les conséquences un peu de la pollution de l'air sur la santé
Alors, la pollution de l'air, en fait, atteint tous les organes sans exception, sur du court terme ou sur du long terme. Sur du court terme, en fait, les infections, elles sont principalement cardio-vasculo-respiratoires. Il faut savoir que les effets aigus de la pollution de l'air, alors chez les jeunes enfants, ça va être plutôt des problèmes respiratoires, mais chez les personnes vulnérables, ce sont en premier lieu les problèmes cardiaques. Les crises cardiaques, les AVC, c'est la première cause des décès dus à la pollution de l'air en France, mais pas que, en Europe, dans le monde. Et puis, après, ben, y a des effets chroniques, il y a des effets sur tous les organes. Donc, on sait que ça affecte y a des problèmes de reproduction. On a des problèmes qui peuvent être liés sur des problèmes vasculaires, de thrombose. Et puis, on sait aussi maintenant, ce qui est en train d'occuper énormément les collègues épidémiologistes et médecins, c'est le lien avec les problèmes de... On sait en fait que les particules peuvent atteindre le cerveau via la perméabilité du bulbe olfactif, donc par l'endroit où passent les odeurs. Et en fait, on sait que ces polluants atteignent le cerveau comme ça et ils créent aussi des dommages que l'on commence et on commence à établir un lien entre la pollution de l'air et maladie de Parkinson, Alzheimer, démence sénile, dépression mentale et déclin cognitif et problèmes cognitifs chez les enfants, manque de concentration. Voilà.
D'accord, on va parler maintenant un peu plus précisément du cas de Grenoble. On entend souvent que c'est une cuvette polluée, une ville qui aurait une qualité de l'air particulièrement mauvaise. Si on regarde les chiffres, c'est entre 3 et 7% des décès prématurés qui ont eu lieu l'an dernier dans l'agglomération grenobloise qui seraient dus à la pollution de l'air et aux particules fines. Comment la ville de Grenoble elle se situe par rapport aux autres villes en termes de pollution de l'air? Est-ce qu'on est vraiment une ville particulièrement polluée?
Alors, effectivement, à Grenoble, il y a une sorte de désavantage géographique. Effectivement, c'est une ville qui est une agglomération qui est très encaissée, avec de très grandes stabilités atmosphériques. Donc, les niveaux de polluants peuvent s'élever assez rapidement et s'accumuler. Donc, ça, c'est une donnée du territoire à laquelle on ne peut pas grand-chose. Pour autant, quand on regarde les niveaux et qu'on se compare aux autres agglomérations, en fait, les niveaux de polluants qu'on retrouve dans l'agglomération grenobloise, ils sont comparables à ceux qu'on retrouve dans les agglomérations de même taille. C'est-à-dire que c'est équivalent à ce qu'on peut retrouver à Strasbourg. C'est très nettement en dessous de ce qu'on peut retrouver à Lyon ou à Paris ou à Marseille. Donc, en fait, l'agglomération, il n'y a pas une spécificité grenobloise marquée. Grenoble n'est pas une ville et une agglomération particulièrement polluée. Et c'est vrai qu'il y a cette image de marque, mais ça, c'est une idée reçue et aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Et on se situe comment, par exemple, par rapport aux réglementations européennes ou de l'OMS?
Et alors, si on regarde un petit peu où on en est aujourd'hui et dans l'historique, il y a quand même une première chose qu'il faut dire avant tout, c'est qu'en 15 ans, sur les principaux polluants que Gaël a déjà mentionnés, on a divisé par deux ces niveaux. C'est-à-dire que les niveaux de polluants auxquels sont exposés les habitants de l'agglomération grenobloise, ils sont deux fois plus bas que ceux qu'ils étaient il y a 15 ans. Ça, c'est pas magique, c'est pas un truc naturel et spontané, c'est le résultat des efforts qui sont faits à tous les niveaux, européens, national, mais aussi local. Et c'est aussi le résultat et l'engagement des habitants du territoire qui ont mis en œuvre un certain nombre d'actions qui ont permis cette réduction. Et quand on dit réduction de la pollution de l'air, là on dit pollution de l'air, mais Gaël l'a très bien dit, notre sujet, c'est pas la pollution de l'air, notre sujet, c'est la santé qui est lié à la pollution de l'air. C'est ça dont on parle, c'est l'ensemble des maladies, des pathologies que Gaël a rappelées. Et in fine, c'est les morts que ça vient causer. C'est-à-dire que l'impact sanitaire à l'échelle grenobloise, c'est environ 400 morts par an. Donc c'est ça dont on parle. Et donc quand on dit qu'en 15 ans, on a divisé par deux, bah en fait, c'est de la santé qu'on a gagnée, c'est des morts qu'on a gagnées.
Et du bien-être aussi qu'on a gagné.
Absolument. Donc ça, c'est quand on regarde l'historique, on a énormément gagné. Et donc c'est une hyper bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on est capable d'agir, c'est-à-dire qu'on est capable de vraiment améliorer la situation et on a du levier en tant qu'habitant. Par contre, quand on regarde la situation, et ça va contraster avec ce que je viens de dire, en fait, on est loin du compte. On est très loin du compte. C'est-à-dire que quand on regarde les seuils réglementaires imposés aujourd'hui par l'Europe à la France, on est très légèrement en dessous. Par contre, l'Europe prévoit déjà que pour 2030, il va falloir atteindre des nouveaux seuils qui sont plus bas. Là, on n'y est pas. On est encore nettement au-dessus. Donc pour 2030, il va falloir faire beaucoup d'efforts supplémentaires pour atteindre ces nouveaux seuils qui sont prévus dans la réglementation. Et c'est encore pire, si j'ose dire, quand on se compare aux seuils qui sont préconisés par l'Organisation mondiale de la santé, qui sont deux fois plus bas que ceux que préconise la réglementation. Donc il y a toujours cette espèce d'écart entre quand on demande aux députés européens où est-ce qu'il faut mettre les seuils, ils nous disent une chose. Quand on demande aux experts de la santé, ils nous disent bah, en fait, ce serait bien deux fois moins quand même. Et donc si on regarde où se situe l'agglomération grenobloise, et c'est vrai de toutes les agglomérations françaises, c'est encore une fois, ce n'est pas une exception grenobloise, eh bien, il y a plus de 90% des habitants de l'agglomération qui sont encore exposés à des dépassements du seuil OMS. Donc, c'est-à-dire que les efforts qu'on a conduits depuis 15 ans pour diviser par deux, ben, il faut continuer à les faire devant, continuer à gagner et gagner pas pour le plaisir d'enlever des microgrammes par mètre cube de NOx, de PM, gagner le potentiel oxydant, c'est pour gagner de la santé pour nos habitants.
Et si ces normes OMS, enfin si ces recommandations OMS, parce que ce ne sont pas des normes, sont aussi basses, ça vient du fait qu'on estime par exemple que pour les particules, eh bien, on dit que ce n'est pas un polluant à effet seuil. Ça veut dire par là qu'on ne trouve pas de niveau minimal en dessous duquel on ne trouverait pas d'effet.
Ok, d'accord. Et on est tous exposés de la même manière à ces polluants en ville où il y a des zones qui sont... plus exposées.
Ah, il y a des zones qui sont plus exposées puisque, en fait, là, il y a, par exemple, en proximité routière, et ça, c'est le cas à l'échelle européenne, on sait, en fait, que les émissions... Donc, les polluants que vont principalement émettre les voitures, ça va être des PM2.5 et puis des NOx, des oxydes d'azote. Ces oxydes d'azote, ce sont des gaz, en fait, qui vont diminuer drastiquement en fonction de si vous êtes sur les grands boulevards et le fait que vous puissiez passer dans une rue qui est 100 mètres derrière avec le fait que vous ayez des bâtiments qui font un écran, les concentrations vont être abattues d'un niveau 2, voire 3, en fait. Ça va très, très vite. Et donc, ce sont des choses, en fait, qui ont une variabilité spatio-temporelle très, très marquée. C'est pas, par contre, il y a des polluants qui sont très uniformes, ce qu'on appelle des polluants de fond, qui sont liés au transport des masses d'air qui vont vieillir. Et bien, ces polluants-là, par contre, c'est à peu près les mêmes qu'on soit à Saint-Martin d'Air ou à la caserne de Beaune. Mais il y a des polluants spécifiques qui, eux, vont varier très fortement d'une zone à l'autre. C'est aussi, par exemple, le cas de l'ozone. L'ozone, c'est un polluant à qui il faut du temps pour se former et qui se fait souvent à la lisière entre des zones plus rurales et les limites des villes, parce qu'il lui faut des NOx d'un côté et des COV de l'autre. Et en général, les COV qui sont émis par les composés biogéniques, à savoir la végétation, sont très très prônes à former cette molécule. Et donc, ça va se former préférentiellement à la lisière entre la ville et la campagne. Donc, il y a des En fait, la dynamique, la formation de ces polluants, c'est des choses qui sont des fois de l'ordre de la seconde. Pour d'autres, il faut plusieurs heures. Et il y a une dynamique qui est associé à tout ça, puisqu'il y a des vents, et c'est quelque chose qui est très dynamique et qui varie spatialement de façon très forte.
Je veux bien faire deux commentaires. Mmh. Votre question, c'était est-ce que tout le monde est exposé ? Donc, en gros, et sans aller dans le détail, la réponse est oui. Et en fait, la pollution de l'air, c'est un des principaux déterminants de santé environnementale. C'est-à-dire qu'on est au même niveau que l'alcool ou le tabac. La différence qu'il y a, c'est que la pollution de l'air, tout le monde y est exposé, y compris si les enfants, y compris les personnes âgées et indépendamment de son choix. Donc c'est ça qui demande un engagement collectif et une responsabilité collective pour venir améliorer la santé de tous. Mmh. Ça c'est mon premier commentaire. Et le deuxième commentaire, c'est pour reprendre ce que dit Gaëlle et prolonger en matière de politique publique. Dès lors qu'on sait qu'il y a des disparités des niveaux de polluants, en gros c'est plus pollué au bord des routes et moins pollué loin des routes, bien que ça reste pollué loin des routes. La réponse à ça, ça veut dire que pour améliorer la santé et réduire l'exposition à la pollution de l'air des habitants, il faut, un, émettre moins de polluants à l'atmosphère. Donc, il faut travailler sur le chauffage au bois. Il faut travailler sur la réduction des émissions de trafic routier. Sans doute qu'on y reviendra. Et ça ouvre aussi la porte à un nouveau type d'action. C'est puisque toutes les concentrations ne sont pas les mêmes partout, ça veut dire qu'il ne faut pas s'amuser à aller implanter des crèches, des EHPAD, mais même des logements en proximité routière immédiate, puisque c'est là qu'on retrouve les niveaux de polluants les plus élevés. Donc ça appelle des mesures d'urbanisme. Et quand, et c'est un sujet de politique publique, on vient fabriquer la ville, il faut faire attention à ne pas venir colocaliser les sources massives de polluants, et notamment les routes, et les habitants, et notamment les habitants sensibles, c'est-à-dire les plus jeunes, les personnes âgées, etc. Et la métropole, d'autres métropoles, mais la métropole de Grenoble l'a fait particulièrement tôt, dans son plan local d'urbanisme, donc c'est l'espèce de grand plan cadre qui vient fixer les règles de l'urbanisation, prévoit des mesures pour essayer de maîtriser l'implantation de ces populations sensibles dans les zones les plus polluées.
Et donc, comme vous le dites, les zones qui sont loin des routes restent touchées parce qu'on y pense moins, mais la montagne aussi est touchée par la pollution atmosphérique et il y a des conséquences sur la pratique sportive. C'est d'ailleurs le sujet du documentaire Notre Air. C'est un film qui regroupe différents athlètes de haut niveau qui ont aidé des scientifiques à installer des capteurs dans des zones reculées en altitude. Je vous laisse donc écouter une interview de France 3 de Mathieu Navillo. C'est un athlète de freeski qui a participé à ce film.
Mathieu, je voulais savoir comment était né ce projet documentaire.
Alors, ce projet documentaire, il est né d'une association qui s'appelle Protect Our Winters France, qui est venue nous chercher, savoir si on avait envie de rassembler des copains du sport pour traiter de la problématique de la qualité de l'air et pour lancer un travail de communication avec des athlètes.
Qu'est-ce que tu constates par rapport à l'air que tu respires ? Est-ce que tu sens que tu respires moins bien aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une évolution au fur et à mesure des années ? Ou alors c'est une prise de conscience un peu différente parce que justement, il y a ce projet Notre Air qui est arrivé ?
En fait, j'avais déjà aucune notion, mais aucune information sur l'état de la qualité de l'air dans les montagnes. Et en fait, ce projet, il m'a permis, je savais pas où on se lançait, il m'a permis de découvrir, d'en apprendre et de réaliser tout un tas de choses. Et ça a été pareil pour les autres côtés sportifs et sportives. Et voilà, ça a permis de nous ouvrir les yeux sur cette thématique et c'était ultra riche. C'était dingue. les particules donc, qui vont être ensuite analysées, elles se déplacent de partout avec les mouvements d'air. Et alors bien évidemment, elles vont rester coincées à certains endroits, mais elles vont se balader très haut, bien au-dessus des points les plus hauts que sont les montagnes dans les Alpes. Et ça va effectivement se redéposer dans les lacs, sur la végétation. Et tout ça, ça va impacter de manière pleinement négative tout cet environnement qu'on pense complètement préservé de nos activités.
Un sportif, quand il court, il inhale beaucoup plus de particules fines et de gaz toxiques que quelqu'un qui respire normalement. 5 à 6 fois plus au niveau de la fréquence respiratoire. Donc ça rentre beaucoup plus profondément dans les alvéoles. Et moi, ce que je vois au quotidien, c'est que j'ai des sportifs qui ont ce qu'on appelle un asthme de novo, c'est-à-dire un asthme qui apparaît de façon aiguë, inattendue, alors qu'ils n'ont aucun antécédent. Et malheureusement, je sais très bien que c'est dû à la pollution de l'air et à leur pratique sportive.
Récemment, il y a plein d'études qui ont été menées en France grâce à notre pouvoir scientifique sur l'impact de ces particules. Et c'était impressionnant de connaître. Alors, ils appellent ça pouvoir oxydant. Donc, c'est l'impact que ça va avoir sur nos organismes, mais aussi sur tous les organismes vivants, parce qu'on n'est pas seul sur Terre et encore moins seul à la montagne. Et ça a un réel impact. Et eux, ils arrivent maintenant à dissocier toutes ces particules, leurs origines, et ils vont pouvoir faire un travail de se dire voilà ce qu'on va devoir réduire, ce qui est impactant ou non.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8 et vous venez d'écouter un extrait du journal télévisé de France 3 sur la pollution de l'air en altitude. Donc il parlait du documentaire Notre Air, avec notamment une interview de Mathieu Navillo, donc qui est un des athlètes ayant participé à ce documentaire, qui est centré sur les athlètes alpins et sur l'impact de la pollution de l'air sur leurs pratiques sportives. Mais il sous-tend aussi, le gros du film est aussi de montrer comment les sportifs ils se mobilisent pour prêter main forte aux scientifiques, en posant notamment, je ne veux pas dire des bêtises, mais des capteurs en altitude pour pouvoir avoir des mesures à ce propos-là. Et donc, Gaëlle, je vous ai vu un petit peu sourire quand il a parlé de potentiel oxydant. Peut-être une petite réaction, je ne sais pas, est-ce que vous avez...
Non, mais parce qu'en fait, je suis intervenue aussi dans le film, donc je pense qu'il a recroisé, il y a des choses qui ont été recroisées, oui.
Voilà. Ouais. Et donc, justement, en quoi ça peut être un peu une fausse bonne idée de se dire que l'air, il est plus pur en montagne? Je pense que c'est un peu une idée reçue qu'on entend souvent.
Alors, en fait, je dirais qu'il faut choisir le bon moment. Il n'y a pas une réponse toute faite à ça. En hiver, en fait, ce qui va faire que l'air en altitude il est plus pur, ça va dépendre de ce qu'on appelle de la hauteur de couche d'inversion. Y a une idée très simple. Il n'y a que l'air chaud qui peut monter. Et l'hiver, vous savez, il gèle. On a ces inversions de température. Donc l'air en fait au sol, vu que l'air au sol est plus froid, eh bien il est empêché de monter. Et c'est ça que l'on peut voir au niveau de Grenoble quand on voit la couche d'inversion très basse, où on a l'impression qu'on est dans la grisaille au sol, et puis on monte à Champs-Rousses, et on est au-dessus de la mer de nuages. Et bien en fait, au-dessus de la mer de nuages, et bien on a déjà fait des mesures de concentration, notamment dans cette vallée de l'Arve, où on montre qu'il y a un ratio, on peut être 7 fois plus concentré au sol que juste au-dessus de la couche d'inversion, en termes de concentration. Donc oui, en hiver, si la couche d'inversion est basse, parce que ça veut dire qu'il fait très froid, ben plus on monte, si on est au-dessus, on va avoir un air plus pur. En été, en fait, c'est un peu différent. En altitude, vous aurez moins de particules, mais tout à l'heure, je vous ai parlé de l'ozone. L'ozone, dans le bilan de la qualité de l'air en France, mais aussi à Grenoble, c'est le seul polluant qui monte. L'ozone, en fait, sa montée, on la voit doucement monter, elle est due au réchauffement climatique, elle est, parce qu'on a un temps d'ensoleillement plus long. Et je vous expliquais, en fait, que plus on a de l'ensoleillement, plus on a des COV liés au biogénique, c'est-à-dire à la végétation, et quelques NOx, ça suffit à la former. Et donc, en général, en altitude...
Alors, les NOx
Les oxydes d'azote. Et en fait, ça veut dire que l'été, en altitude, on a plus d'ozone qu'en bas. Donc en fait, ça dépend encore de quoi on parle, de quelle pollution on parle. Il faut savoir que l'ozone, c'est un puissant oxydant. Donc en été, je vous conseille de faire votre footing sur les berges plutôt que de monter très très haut. En hiver, si vous pouvez être au-dessus de la couche limite, c'est toujours mieux. Voilà.
Voilà, donc il n'y a pas de réponse unique.
Non, il n'y a pas de réponse unique. Je ne sais pas si Camille, tu veux compléter.
Mais... Non, mais absolument. Mais oui. Tu as tout dit, comme d'habitude. C'est merveilleux. Non, l'ozone, il y a ce paradoxe. C'est vrai que souvent, quand on parle de pollution, on pense pollution urbaine et on pense oxyde d'azote et particules. Et c'est vrai que ce sont des polluants qui sont urbains. L'ozone, on est dans un schéma qui est un peu inverse. C'est vrai qu'on trouve des niveaux d'ozone qui sont plus importants en périurbain et en altitude. Donc c'est un truc qui est un peu paradoxal et pour autant, ce n'est pas un polluant qui est anodin. Donc il faut bien le considérer avec sérieux. Je voulais faire un commentaire par rapport au film. Et effectivement, il y a ce truc hyper fun d'avoir un capteur qui va aller mesurer des niveaux de particules. Le capteur, il n'est pas ultra précis, mais il est quand même hyper intéressant parce qu'il est indicatif et qu'il permet de s'intéresser au sujet. Et ces capteurs-là, et notamment ceux qu'on voit dans le film, ils peuvent être prêtés à tout habitant de la métropole qui le demande. Ça, c'est un service d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, enfin que Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a monté en coopération avec la métropole de Grenoble. Et c'est ultra intéressant. Donc, ce n'est pas pour aller faire de la recherche scientifique. Le capteur, il n'a rien à voir avec les capteurs de Gaël. Mais on peut l'accrocher sur son sac à dos. On peut aller mesurer les impacts de son chauffage au bois dans son air intérieur, son exposition sur son trajet à vélo. C'est assez fun, c'est hyper enrichissant, c'est une expérience qui vraiment vaut le coup et le service évidemment il est gratuit. Donc toute personne qui est un tout petit peu curieuse du sujet peut tout à fait aller demander son capteur à Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et c'est vraiment ultra intéressant. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est très technique, qui est compliqué, et on n'en parle pas toujours très bien, mais ça c'est une approche ultra simple pour capter quelques fondements et commencer à adapter son comportement en s'exposant moins et puis éventuellement en étant un petit peu déterminé à changer ses propres habitudes. Un récit et un truc qu'on constate assez souvent, le chauffage au bois individuel non performant, c'est une des principales sources de particules dans les vallées alpines, c'est vrai aussi dans notre agglomération. C'est un truc qui est assez peu connu. Souvent, quand on l'explique de manière théorique à nos habitants, on nourrit un peu au nez, en fait, le chauffage au bois, c'est un mode de chauffage qui est ancestral, tout le monde le fait, c'est bon, ça sent bon, on trouve ça cool, etc. Et en fait, quand ces mêmes gens-là prennent un capteur chez eux et constatent que leur air intérieur est contaminé à haute dose par les particules qui est liée à leur cheminée à foyer ouvert, qu'ils ont des enfants chez eux, ils commencent à faire la jonction entre les particules qui sont mesurées en air intérieur, l'asthme, la bronchiolite, etc. Et ce truc que pour comprendre des choses, il faut en faire l'expérience, ben, on le constate assez souvent, ces capteurs, ils permettent de faire ça. Encore une fois, j'invite tout le monde à aller...
avoir une prise de conscience.
Ouais, absolument.
Sans se fier à la valeur absolue qui a un biais de mesure, parce que c'est pas, leur but n'est pas de vous donner une valeur de référence qui soit absolue.
Ouais, c'est intéressant en fait que ces capteurs, parce que j'allais demander comment, enfin s'ils étaient à des fins scientifiques, les capteurs posés comme ça en montagne, mais en fait pas du tout.
Non.
Donc c'est intéressant à savoir. Donc appel aux pratiquants des sports de montagne. Du coup, tout le monde peut s'en procurer pour.
Il y a parfois une petite liste d'attente s'il y a beaucoup de gens intéressés, mais des capteurs, il y en a un certain nombre, ils sont disponibles. Ils sont là pour être prêtés.
Voilà, c'est une captothèque. Tapez Captotech Atmora et donc il vous est prêté pour une durée, j'ai plus la durée en tête, mais je pense que
une certaine durée.
Voilà. Voilà.
Bon, eh bien, c'est bon à savoir. Et donc avant, j'évoquais justement qu'on allait parler des liens qu'il peut y avoir entre domaine scientifique et politique publique. Donc je voulais demander, Camille Rieu notamment, comment les collectivités, elles travaillent avec la communauté scientifique.
En fait, pour fabriquer de la politique publique d'amélioration de la qualité de l'air, en fait, il n'y a pas d'autre chemin que de s'appuyer sur la science. C'est un truc, à la fin, c'est de la politique publique, mais le point de départ, il est quand même fondé sur des constats, des analyses et des projections qui sont scientifiques. Et les outils pour nous, pour fabriquer ça, c'est l'Observatoire régional de la qualité de l'air, c'est Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ont une mission réglementaire, leurs missions, elles sont inscrites dans la loi sur l'air de 1996. Il y en a dans toutes les régions, les méthodes, elles sont normalisées, elles sont fiables, elles sont partagées et leur travail est fait de manière indépendante et transparente. Donc ça, c'est absolument essentiel. Gaël l'a dit tout à l'heure, là, il travaille avec des stations de mesure, des mesures scientifiques, des modèles. Un modèle, c'est intéressant parce que ça permet de savoir quel va être le niveau de polluant demain et donc de donner la bonne information pour demain. C'est le pylône de la Bastille qui peut être vert, qui peut être rouge, etc. Et ça permet, et pour nous, c'est extrêmement important, de jouer des scénarios prospectifs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si on fait une tonne à faible émission? Qu'est-ce qui se passe si on fait une primaire bois qui permet de remplacer la moitié des appareils de chauffage au bois non performants? Et pour nous, c'est essentiel d'être capable d'avoir cette projection. On ne fait pas de la politique publique au pif en se disant « ouais, en gros, ça va marcher ». On le fait en allant mobiliser des modèles qui nous permettent de faire cette projection-là. Donc ça, c'est nos outils de base. C'est en gros des outils de mesure et de projection. Et après, le lien à la recherche, il est essentiel parce que ce qui est dans la réglementation ou ce qui se trouve dans les outils standards date toujours un peu. C'est-à-dire que les outils et la réglementation sont en retard par rapport à la connaissance la plus à jour. Et c'est là qu'il est essentiel de venir mobiliser la recherche. C'est le travail de Gaël qui fait de la recherche de ultra haut niveau. Et si on veut de la politique publique qui soit à jour de cette connaissance scientifique et qui ne tape pas à côté, on a besoin de travailler de manière étroite sans attendre que l'Europe vienne intégrer dans ses standards avec 10 ans de retard les dernières connaissances scientifiques. Donc il y a un enjeu pour les élus qui fabriquent la politique publique d'être connectés à la science de manière directe, au plus près. Et dans la science qu'on mobilise, il y a de la science qui relève de la mesure et de la santé, c'est tout l'incroyable travail de Gaël. Mais il y a des travaux dans le champ de l'économie, parce que pour faire de la politique publique, il faut savoir combien ça coûte de ne pas faire, combien ça coûte de faire. C'est un peu trivial, mais à la fin, il y a quand même une question d'argent, de moyens et de ressources. Et pour nous, c'est un truc qui est absolument essentiel. Et il y a un dernier sujet, c'est que on l'a vu, les leviers, c'est le chauffage au bois et mobilité. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est des leviers qui sont entre les mains des habitants et que donc, il faut que nous tous, on vienne transformer nos manières de nous chauffer, nos manières de nous déplacer. Et ce truc-là demande de faire appel à des sciences comportementales, mais aussi à du design, à faire des évaluations qui soient basées sur des méthodes ad hoc. Et là aussi, on a besoin de recherche. En fait, ce n'est pas un truc qui s'invente. Encore une fois, on ne le fait pas au pif. Et donc, il y a des projets de recherche à l'UGA qui travaillent ces questions-là. Et on a la chance localement d'avoir un écosystème ultra riche. À l'UGA, il y a plein de laboratoires qui, dans toutes ces disciplines-là, et chacun dans son couloir, travaillent la question de la qualité de l'air. Et pour les pouvoirs publics, c'est ultra riche, c'est ultra nécessaire et on a vraiment de la chance d'être à Grenoble parce que cet écosystème, il est là, il fonctionne et pour nous et donc pour nos habitants, c'est juste génial.
Bah merci. Et c'est surtout aussi, je pense, pour compléter ce que tu dis, c'est quelque chose qui s'est pas mis en place juste par hasard. Probablement que des chercheurs se sont intéressés dans leur champ de recherche, au lien avec la pollution atmosphérique, parce qu'à un moment, c'était quelque chose qui était visible à Grenoble, ça l'est moins aujourd'hui, mais aussi parce que la métropole, la ville, les collectivités autour nous ont aussi sollicités avec des questions, et aussi parce qu'ils nous ont laissé, pour nous, que Grenoble soit aussi notre ville pilote de nos recherches. Moi, j'ai le coutume de dire que Villotte, que mon territoire, c'est mon pilote de recherche parce que à chaque fois que je dois tester quelque chose, je le teste ici. Et j'ai toujours l'approbation aussi de ces collectivités qui sont très demandeurs. Et quand tout à l'heure Camille disait qu'il y avait le temps de la réglementation, le temps des politiques publiques et il y a le temps scientifique, eh bien pour vous donner un ordre d'idée, on parlait tout à l'heure du potentiel Occident, il va rentrer dans la réglementation là en fin d'année, par la directive qui a été adoptée fin 2024. On travaille à Grenoble sur ces questions depuis 2012. On parlait tout à l'heure des additifs de pneus. Tout d'un coup, ça va devenir quelque chose qui monte dans les médias parce qu'il y a une première étude. On a des mesures sur Grenoble. Elles vont bientôt sortir. C'est des choses. Avant que ce soit réglementé, on peut prendre le compte à rebours. On est le 22 janvier 2026. J'espère que peut-être qu'en 2035, on aura quelque chose dans la réglementation européenne. Mais c'est des choses qui prennent énormément de temps. Et le fait que notre territoire, on puisse expérimenter ces choses-là, derrière avoir des papiers qui sont reviewés par des pairs, eh bien c'est sûr qu'on peut avoir des politiques qui sont des fois très en amont à Grenoble, parce qu'on a cette... On est aussi sur un territoire restreint, les gens se connaissent. Enfin, c'est des choses qui peuvent aller peut-être plus vite parce qu'on est ici. Voilà.
Oui, et ben justement, en parlant de politique publique, à la métropole, vous avez le plan énergie-air-climat. Donc, est-ce que Camille, tu peux un petit peu nous expliquer en quoi il consiste, grossièrement?
Alors, le plan air, énergie, climat, c'est un plan qui est obligatoire dans toutes les métropoles. Donc, la métropole de Grenoble vient de réviser le sien. Donc, c'est un plan qu'il faut réviser régulièrement. C'est l'ensemble de la feuille de route métropolitaine de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'adaptation au changement climatique. Et il y a un volet spécifique sur la qualité de l'air. Donc, si vous voulez bien, je vais me concentrer sur mon sujet favori, la qualité de l'air. Et donc on retrouve là-dedans les sujets qu'on a déjà évoqués. Donc nos objectifs, c'est d'améliorer le plus vite possible la qualité de l'air. Un, de respecter la réglementation et de viser à respecter les seuils OMS. Donc là, on est sur un horizon un peu plus lointain, mais on est bien là-dessus. Et pour faire ça, on mobilise les leviers qu'on a déjà évoqués. Et en gros, il y a trois leviers principaux. Un, il faut réduire les émissions de particules par le chauffage au bois individuel non performant. C'est un truc qui est spécifique. C'est les foyers ouverts, c'est les appareils les plus anciens. Et pour faire ça, il faut faire essentiellement renouveler les appareils non performants. Et pour ça, la métropole, elle met en place un dispositif qui est une aide financière au renouvellement de ces appareils. Et après, autour de ça, et pour continuer de capaciter nos habitants jusqu'au bout, il y a un ensemble d'éléments d'aller vers, d'animation, de près de micro-capteurs pour venir expliquer comment le truc joue, qu'il y ait une compréhension du phénomène et un renouvellement effectif de cet appareil et donc une aide métropolitaine pour changer cet appareil avec un objectif... De complètement supprimer tous les, enfin non seulement supprimer mais remplacer tous ces appareils non performants. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est réduire les émissions des transports routiers. On l'a dit, les transports routiers sont à l'origine d'oxyde d'azote, qui ont des dioxydes d'azote qui ont un impact sanitaire, mais aussi de particules qui sont pas très nombreuses mais qui ont un pouvoir oxydant et donc un impact sanitaire spécifiquement élevé. Donc c'est l'expertise de Gaël. Donc on a une double raison d'aller agir sur les transports routiers, et par ailleurs, quand on agit sur les transports routiers, non seulement on va améliorer la qualité de l'air, mais il y a un ensemble de co-bénéfices. Ça, on l'a pas dit, mais en fait la politique publique de qualité de l'air, à la fin, elle ne fait pas que de la qualité de l'air, elle fait de la qualité de l'air pour améliorer la santé. C'est à ça qu'on pense d'abord, mais la plupart de ces actions, elles ont des co-bénéfices. Elles permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, on agit sur le climat, on récupère de l'espace public, mais aussi et surtout, il y a des co-bénéfices, pas uniquement collectifs, mais aussi individuels. C'est-à-dire que notre sujet, ce n'est pas de venir juste faire de la mobilité faible émission bas carbone pour la partie faible émission bas carbone. Le sujet, c'est aussi beaucoup la mobilité et c'est comment on restaure ou comment on donne de l'équité d'accès à la mobilité. Parce que la mobilité, c'est un droit pour tous, que la mobilité, c'est un truc qui est nécessaire pour aller bosser, pour aller à la fac, pour aller faire ses courses, mais aussi pour accéder aux loisirs, pour emmener ses enfants à l'école, etc., etc. Donc en fait, dans nos dispositifs d'accompagnement pour améliorer la qualité de l'air et la santé, il y a un ensemble de co-bénéfices qui sont travaillés dans le même temps. Et en fait, quand on fait des dispositifs d'amélioration de la qualité de l'air, on fait aussi du développement social, du développement économique, etc. Et faire un dispositif qui ne fait qu'une chose, ça n'a pas de sens. Donc on travaille bien un sujet qui vient encapsuler la totalité de ces sujets-là. Et notre sujet, quand on travaille sur la mobilité, c'est de faciliter la vie des gens en même temps qu'on leur... Donc, c'est-à-dire se déplacer plus facilement, moins cher, avec plus d'efficacité. Et au passage, on va améliorer la qualité de l'air. Notre sujet, c'est bien celui-là. Et donc, dans les grandes actions du plan Air, Énergie, Climat, ou dans la politique métropolitaine de manière générale, autour de la mobilité, il y a... un chapeau qui est la zone à faible émission, si vous voulez, on en reparlera, ouais, il y a beaucoup à dire dedans. Même. Et surtout, parce que le sujet de la zone à faible émission, ce n'est pas l'interdiction, le sujet, c'est ce que je viens de dire, c'est comment on accompagne et comment on donne accès à tous à une mobilité faible émission et bas carbone. Il y a des dispositifs d'accompagnement qui, pour les particuliers, permettent de transformer leur mobilité avec un dispositif d'accompagnement, de conseils, de coaching et des aides financières. Et pour les acteurs économiques, c'est-à-dire les professionnels du territoire, il y a aussi une logique de conseil et d'aide financière pour renouveler des véhicules. Donc il y a ces actions-là qui sont sur la mobilité et une aide à l'achat vélo. Donc c'est ça la politique métropolitaine autour de la mobilité, c'est accompagner les habitants à accéder à une mobilité faible émission et bas carbone. Et tout ça, on le fait évidemment en lien avec les syndicats mixtes des mobilités de l'aire grenobloise, qui est le syndicat qui en charge toutes les compétences autour de la mobilité. Donc on travaille sur, on fait des dispositifs d'aide sur le chauffage au bois, on fait des dispositifs d'aide sur la mobilité, et il y a un troisième axe d'action qu'on a déjà évoqué, c'est travailler l'urbanisme, c'est-à-dire fabriquer une ville qui ne vient pas mettre au même endroit des populations sensibles et des forts niveaux de pollution. C'est un truc très important. C'est ça les trois axes qu'on retrouve dans le plan d'action métropolitain d'amélioration de la qualité de l'air.
Bah oui, donc on voit bien que c'est vraiment un travail de manière transversale et donc qui regroupe et recoupe plusieurs domaines. Et donc justement, ce plan, il dresse des objectifs de réduction de 50% des gaz à effet de serre d'ici 2030. Alors c'est un des objectifs. Actuellement, donc par rapport aux émissions de 2005, j'ai oublié de le préciser, actuellement, sur cet objectif précis, où est-ce qu'on se situe ?
Alors je ne suis pas le mieux placé pour parler de gaz à effet de serre. Mais pour autant, les objectifs de réduction qui étaient inscrits et le plan dont vous parlez, c'est le plan 2020-2030. C'est-à-dire, c'est un plan qu'on est en train de réviser avec des objectifs plus ambitieux. Mais aujourd'hui, on est sur notre trajectoire réelle de diminution. Elle est à peu près conforme aux objectifs qui avaient été fixés en 2020 quand le plan a été adopté.
Oui, et donc justement, il y a aussi peut-être pour traiter, enfin c'est ce que vous disiez avant, le plus important c'est aussi que la population prenne elle-même cette thématique et agisse elle-même. Voilà, donc est-ce que vous trouvez qu'il y a peut-être un manque d'informations particulier de la population ? Et est-ce que c'est aussi peut-être pour ça que vous avez mis en place le pylône de la Bastille dans le but que peut-être de conscientiser les citoyens sur ce thème ?
Alors, le premier truc qu'on peut se dire qui est complètement évident, mais c'est que personne ne pollue pour le plaisir, en fait. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Deuxièmement, oui, l'essentiel des leviers d'action, ils sont entre les mains des citoyens, c'est le chauffage au bois et c'est la mobilité. C'est comment je me chauffe, comment je me déplace. Et donc, il y a un besoin que chacun soit en capacité de faire ces transformations-là. Et donc, pour être en capacité de transformer sa manière de se chauffer et de se déplacer, il y a un truc d'avoir la connaissance et l'information autour de ces sujets-là. Donc, effectivement, il y a un ensemble de mesures qui ont à voir avec l'information, la connaissance du sujet, etc. Et puis, il y a les dispositifs d'aide à la mobilité et au chauffage. Et en fait, pour changer, certes, c'est important d'avoir une notion des enjeux, mais surtout, il faut que la solution, elle, pour moi, elle vienne nous simplifier la vie, qu'elle soit plus simple, qu'elle soit plus efficace, qu'elle soit moins chère. En fait, c'est notre vision, c'est que il n'y a pas une espèce d'écologie brutale où, en fait, juste parce qu'on sait que les impacts sont très forts, j'arrive à transformer ma vie. En fait, ce truc-là, ça marche un peu, mais il y a une limite pour transformer nos vies et nos manières de nous chauffer et nos manières de nous déplacer. Il y a besoin qu'il y ait des solutions qui soient plus efficaces. En fait, nos vies, elles sont déjà pleines de tout, se déplacer, c'est un truc qui est compliqué. On n'a pas tellement d'espace, donc ça veut dire qu'il faut qu'on vienne. Le rôle des pouvoirs publics, c'est de venir permettre ou assurer les modalités de ces changements et en venant fabriquer des solutions qui sont plus simples, plus efficaces, moins chères. Et sur la mobilité, il y a un coût qui est énorme de passer de sa voiture à son vélo, plus le train, plus le tram. Mais à la fin, quand on arrive à faire cette transformation, on a une mobilité qui est beaucoup moins chère. Enfin, la voiture est un piège social pour beaucoup de nos habitants, en fait. La voiture, c'est pas un cadeau. Par contre, sortir de sa voiture, c'est un truc qui demande beaucoup d'engagement et d'énergie et d'expertise, etc. Et donc, nous, ce qu'on vient fabriquer, c'est des dispositifs d'accompagnement et d'aide financière qui permettent d'opérer ces transformations-là.
Le changement de mobilité, c'est donc un des axes principaux que vous travaillez. Donc on va revenir un peu plus sur les ZFE, ces zones à faible émission qui ont beaucoup fait parler d'elles. et qui reviennent dans l'actualité puisque le 20 janvier, mardi, la commission mixte paritaire s'est prononcée sur leur sort alors que le Sénat et l'Assemblée nationale n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord en 2025 entre la fin de l'obligation de la mise en place de ces zones ou leur simple suppression. La commission a donc tranché hier en décidant de maintenir la suppression des ZFE dans le texte de loi qui sera présenté aux deux chambres et à nouveau soumis au vote, qui s'annonce pour le moment incertain. Pourtant, les effets positifs des ZFE sur la réduction de la pollution de l'air dans les grandes agglomérations, notamment à Lyon et à Paris, ont été constatés par le Conseil d'État. Ce projet de loi, s'il est adopté, il pourrait remettre en circulation plus de 2,7 millions de véhicules dans les rues des plus grandes agglomérations françaises, dont Grenoble, avec des conséquences, on l'imagine bien, assez importantes sur la qualité de l'air, puisqu'il s'agit des véhicules qui font partie des plus polluants du parc automobile français. Toi, Camille, tu travailles sur ce sujet depuis plusieurs années. Donc, comment tu réagis face à ce revirement législatif et comment les collectivités territoriales le vivent ?
Alors, on n'est pas tout à fait à la fin de l'histoire. Il peut encore y avoir des rebondissements. Il y a de futurs aiguillages. D'abord, je commence par redire... en fait, il y a un vrai... et c'est sans doute la responsabilité de tous les gens qui portaient le truc. Il y a une vraie difficulté d'explication. Les ZFE ont sans doute été mal comprises. Je redis, le sujet de la ZFE, ce n'est pas juste de venir interdire des véhicules polluants et d'aller les transformer et d'aller venir imposer une transformation dans un véhicule moderne, électrique et d'aller balancer à la casse des voitures qui ne roulent pas. C'est comme ça souvent que ça a été compris. Le sujet, il n'est pas celui-là. Le sujet, il est celui que j'ai dit, c'est de donner accès à une mobilité faible émission à tous, de venir donner de l'équité d'accès à cette mobilité-là. Et donc le sujet de la ZFE, ce n'est pas la contrainte, la réglementation, les verbalisations en fait. Le sujet de la ZFE, c'est la mobilité et une mobilité faible émission pour tous, à la fois pour les bénéfices collectifs sur la santé et la pollution et la santé que ça vient apporter, mais aussi pour les bénéfices individuels que ça vient apporter en matière de mobilité, parce que les collectivités, pour la plupart, ont quand même fait des efforts et débloqué des ressources budgétaires considérables pour venir faire des accompagnements et offrir des solutions de mobilité alternatives à la voiture et aussi, et on l'a fait, la métropole de Grenoble l'a fait aussi, des aides au renouvellement des véhicules vers des véhicules faibles émissions. Mettre fin aux ZFE, non seulement ça vient nous priver d'une trajectoire d'amélioration qui était nécessaire et utile, on se disait tout à l'heure on a gagné 50% des émissions en 15 ans, on a besoin de continuer à être à ce rythme-là si on veut continuer d'améliorer la santé. Là, ce qui est à risque, c'est de plus réussir à gagner. Sur la mobilité, on n'a pas des millions d'outils pour améliorer le sujet. La ZFE venait nous donner une feuille de route et une trajectoire. Voilà. Pour autant, la métropole et le SMAG restent engagés. Les dispositifs d'accompagnement ils restent actifs. Et notre sujet d'améliorer la mobilité de tous, lui, il demeure. Mais par contre, on perd notre trajectoire inscrite dans la loi par la réglementation. Et je dis un dernier truc avant de te laisser la parole, Gaëlle. Il y a un vrai... Pour qu'une politique publique soit efficace, il y a un besoin de compréhension et de stabilité. La ZFE, elle a 3 ans. En 3 ans, il y a eu une règle. On a imposé... Et ça, c'est pas le fait de la métropole qui s'est à chaque fois adaptée. C'est pas le fait des territoires. C'est un truc qui vient du niveau national. On a eu une règle qui nous a été imposée, qu'on a appliquée, puis qui a changé dans son calendrier et maintenant qui est à risque de se volatiliser. Donc avoir des dispositifs d'accompagnement à la mobilité qui fonctionnent dans un contexte où le cadre réglementaire varie sans arrêt, c'est extrêmement difficile. Nos habitants, ils sont exaspérés par ce truc-là, ils n'y comprennent rien et en fait, ils ont raison. Parce qu'on n'y comprend rien. Et donc, pour avoir de la politique publique efficace, il ne suffit pas d'avoir des bons dispositifs, il faut de la stabilité. C'est ça qu'on est en train de perdre.
Ah, et donc, je dois prendre la suite, c'est ça ? Moi, du coup, non, je voulais aussi dire que, pour moi, il y avait deux objectifs fondamentaux dans les ZFE. C'était, en un, de diminuer la pollution qui était liée au trafic routier, et en deux, de protéger la santé publique. Et que... on a aussi, aujourd'hui, la France a adopté, a voté et a voté la nouvelle réglementation européenne qui va prendre effet à la fin de l'année. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les zones dures en France, ce n'est pas les zones rurales. Les zones dures, les points durs, c'est les zones urbaines. Et en l'occurrence, comme Camille l'a dit, Il se trouve que le chauffage au bois et le trafic routier, c'est les sources qui émettent le plus dans les villes et qui sont en plus les plus oxydantes. Alors moi, je ne suis pas pour ou contre les ZFE. Par contre, ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui, si on supprime les ZFE sans mesures alternatives crédibles, c'est-à-dire qu'on ne fait rien pour lutter contre la pollution, il y a autre chose qui nous attend. Ça s'appelle un contentieux avec l'Union européenne qui va nous coûter des millions d'euros. Parce qu'on n'arrivera pas avec les... On parlait tout à l'heure, donc par exemple, les dioxydes d'azote, les concentrations, à partir du 11 décembre 2026, ce qu'on nous demande, c'est de les diviser par deux. On a déjà un contentieux avec l'Union européenne auquel on a échappé parce qu'on a dit qu'on mettait, dans la négociation, on a dit qu'on mettait en place les ZFE. On ne va pas arriver à diminuer de moitié alors qu'on échappe déjà à un contentieux sans mesure si on les supprime. Et donc en fait, tout l'enjeu autour en fait, pour moi, on ne peut pas supprimer ces ZFE si on ne met pas en place une autre alternative qui sera peut-être plus simple ou alors qu'on les explicite mieux. Et comme disait Camille, ces ZFE, ce n'est pas pour mettre des amendes, c'est pour diminuer cette pollution et sauver des vies. Et donc, il y a peut-être d'autres façons. On peut agir sur certaines sources, par exemple. Là, on est beaucoup à se mobiliser sur le fait que, par exemple, une voiture, plus elle est lourde, plus elle va émettre des particules, notamment de pneus, dans l'atmosphère, parce qu'elle est plus lourde et on va abraser plus. Eh bien, c'est sûr que une voiture, plus elle est, si on imposait des voitures plus légères, on peut, par exemple, diminuer. Enfin, il y a des leviers d'action qui pourraient être directement à la source, et puis il y a des leviers d'action qui doivent être urbains. Et donc, aujourd'hui, ces ZFE, elles étaient vraiment basées sur des mesures quand même scientifiques. Et il nous semble pour nous que ce qui est délicat pour nous aujourd'hui, les scientifiques, c'est qu'on trouve qu'en les supprimant, eh bien, on affaiblit des politiques qui étaient faites pour protéger la santé, en mettant aussi un peu le doute scientifique sur ces mesures, alors que tout cela a été démontré à une échelle pas seulement nationale, à une échelle internationale, et qui en plus sont en train de faire leurs preuves à l'étranger, là où elles ont été mises en œuvre depuis plus longtemps. Et donc, c'est assez désarmant parce que en fait, cette remise en doute aussi de la parole scientifique, c'est quelque chose qui est instillé de façon, on va dire, à dose homéopathique, là, depuis quelques années, puisqu'on a aussi, on est aussi dans une société de rupture où les discours les plus extrêmes vont pouvoir avoir un impact. Alors que nous, c'est vrai qu'on est sur une stabilité, un travail de fond, de l'ombre, qui alimente ces politiques. Et donc, on espère vraiment qu'il y aura un sursaut au moment de ce vote et qu'en tout cas, qu'il y ait des choses qui soient mises en place de façon alternative si elles venaient à être supprimées.
Parce que là, très concrètement, sur Grenoble, comment ça va se traduire? C'est les vignettes critères, par exemple, elles continuent à être...
Alors, les vignettes critères, elles, pour l'instant, il n'est pas question... Alors, si le projet de loi passe tel qu'il est aujourd'hui sorti de la CMP, les vignettes critères existent toujours. Les vignettes critères, par ailleurs, elles sont mobilisées dans d'autres dispositifs comme la gestion des épisodes de pollution. Par contre, toute la base légale de la zone à faible émission disparaît, ce qui veut dire que toutes les réglementations qui ont été mises en place aujourd'hui dans 35 agglomérations dans un but d'amélioration de politique publique et d'amélioration de la mobilité de chacun devient illégale. C'est-à-dire que le truc est supprimé. Il n'y a plus de ZFE. C'est ça qui est à risque. Après, on n'est pas tout à fait au bout du... On ne va pas anticiper la fin. Il y a encore un certain nombre d'étapes et notamment une possibilité de censure par le Conseil constitutionnel. Mais ce qui est à risque, c'est véritablement de perdre cette feuille de route d'amélioration de la pollution du trafic routier. Et ça, c'est des impacts de santé. Et c'est aussi mettre à risque les dispositifs d'accompagnement à la mobilité. En fait, il y a une espèce de piège un peu absurde où on a quand même un risque de tout perdre. Et je ne défends pas absolument les ZFE, il y a un certain nombre de défauts, mais localement, les territoires, c'est des débrouillés pour venir fabriquer des cadres réglementaires ajustés en se basant sur les concertations, la parole des habitants, en venant faire un truc fin et qui a du sens en essayant de venir piéger personne et de trouver des portes de sortie à tous, et en venant fabriquer des dispositifs d'accompagnement à la mobilité qui permet de trouver des meilleures solutions, non seulement d'améliorer la santé et de réduire les émissions, mais de trouver des meilleures solutions de mobilité au plus grand nombre. Donc c'est ça qui est à risque aujourd'hui. Et je veux bien prolonger un tout petit peu en disant que le truc qui est en question dans la question sur le sujet de transition, de la transition écologique, et qui est très très fort sur la ZFE, c'est une sorte de modèle assez intéressant pour réfléchir à ces questions, c'est ce truc de mais comment on fait, ou est-ce que c'est possible de conjuguer la transition écologique et la justice sociale? Parce qu'en fait, la ZFE, elle est venue se fracasser sur cette espèce de truc, mais en fait, ce débat, cette question, elle est un peu stérile. En fait, le sujet, c'est pas « est-ce qu'il faudrait pas réduire notre ambition sur la santé pour passer la barre de notre ambition en matière sociale ?» En fait, le sujet, c'est pas ça. Ces sujets, ils jouent ensemble, ces sujets, ils sont encastrés. Et le seul chemin qu'on a, et c'est ça qu'on essaye de fabriquer à la métropole de Grenoble, c'est un truc où on fait tout ensemble, en fait. C'est-à-dire qu'on vient offrir, faire tout, monter des dispositifs pour donner accès à une mobilité faible émission au plus grand nombre, à tous, restaurer de l'équité d'accès à cette mobilité qui coûte cher, mais aussi qui est plus simple, qui est plus pratique, qui est moins cher pour chacun. Et ça, ça a comme co-bénéfice d'aller améliorer la qualité de l'air, de réduire les émissions de GES, de venir récupérer de l'espace public, d'avoir un cadre de vie qui est meilleur, etc. Donc il n'y a pas ce truc de mettre en conflit, et ça c'est de la démagogie en fait, c'est un débat stérile qui n'a pas d'intérêt, de venir mettre en conflit la justice sociale et la transition écologique, ça joue ensemble. Et le seul chemin pour la transition écologique, c'est une transition écologique qui vient embarquer la transition sociale dedans, quoi, dans le même temps. Il n'y a pas un truc de la magie de l'écologie qui va venir tout résoudre sans rien en faisant des réglementations, ça n'existe pas, et en fait personne n'y croit, personne ne vend ce projet-là.
Oui. Et bien justement, ça tombe bien que vous en parliez, parce qu'on allait justement passer une critique par rapport aux ZFE, justement sur ce côté justice sociale et ZFE. Donc on va un petit peu écouter l'autre côté, voilà. Et puis après, on pourra débattre de nouveau après cet extrait.
Et finalement, la ZFE, ça part d'une bonne idée, c'est-à-dire dire on va diminuer le trafic automobile pour éviter la pollution, mais sans avoir réfléchi en amont à mettre en place les dispositifs nécessaires.
Souvent on dit que c'est la double peine pour les classes populaires, puisque du coup souvent c'est des personnes qui travaillent en métropole, puisque tout le travail, en tout cas une grande partie, se concentre dans la métropole, mais ces personnes ne peuvent pas se loger, donc du coup elles vont vivre plus loin. Et là on se retrouve avec un phénomène où, en plus de ne pas pouvoir être sur place et d'avoir les trajets, de ne plus utiliser la voiture, et en plus, on se retrouve avec un report de la pollution, justement, vers ces quartiers ou vers ces villages périphériques. Donc, c'est vraiment la double peine pour ces personnes-là.
Et voilà, donc vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8 et vous venez d'entendre deux députés de la France Insoumise, de l'Hérault et de Toulouse, lors d'une conférence de presse en 2023 sur le sujet des ZFE et justement de montrer... Enfin, qui montrait un petit peu les inégalités que peuvent soulever ces mesures. Donc, justement, Camille, une petite réaction à ça.
Une petite, mais une même petite. Peut-être une réaction un petit peu en profondeur, parce que le sujet est compliqué. En fait, il y a un truc qu'il faut se redire. En fait, quand on dit ZFE, une fois qu'on a dit ZFE, on n'a absolument rien dit. La ZFE, ça peut être le pire, c'est-à-dire... Ben ouais, là, au 1er janvier 2025, on va interdire tous les critères 3, vous vous démerdez, vous n'avez plus le droit de rouler, voilà, c'est tout. Vous n'êtes plus en ville. Donc si tu es en ville, ben, tu ne peux plus te déplacer. Si tu es à l'extérieur de la ville et que tu as besoin d'accéder aux services qui sont en ville, ben, tu ne peux pas. Donc ça, c'est le pire. Mais personne n'a fait ça. Personne n'a fait ça. La réalité de la ZFE, ce n'est pas la ZFE, c'est un cadre réglementaire adapté au territoire et de l'accompagnement. Et je peux vous décrire de manière assez précise comment ce truc a été fait dans la métropole de Grenoble, mais... Nos collègues des autres territoires et les élus des autres territoires, ils ont fait pareil. Enfin, Lyon, Paris, Strasbourg, ça ressemble à ce qu'on a fait. Donc, on fait une grande concertation pour capter comment le truc pourrait se passer. Donc là, on parle de 2021-22. Et suite à cette concertation, et en captant ce que les habitants ont expliqué, nos élus, ils ont dit, vous vous débrouillez, vous nous faites une ZFE, mais priorité 1, faites gaffe aux impacts sociaux. En fait, c'est ce truc, ça n'a aucun sens d'aller piéger des gens. La vie, elle est déjà suffisamment compliquée. On ne va pas mettre une contrainte de plus, particulièrement dans les gens qui ont déjà des difficultés à vivre. Donc, on ne rajoute pas de la difficulté. Deuxième
sujet.
Peut-être
pour un côté très pratico-pratique, se dire qu'acheter un véhicule, je ne sais pas moi, électrique qui pollue moins, ça peut quand même être très cher pour une partie de la population.
Merveilleuse transition vers le deuxième point, qui a justement à voir avec ça, c'est le sujet, c'est pas de prendre des vieilles voitures qui roulent encore et de les remplacer par des voitures électriques qui ont d'autres défauts, y compris sur le plan environnemental, et qui coûtent hyper cher. On fait pas ça, il faut trouver un autre moyen. La ZLFE a beaucoup été contestée là-dessus, mais en fait, dès le début, le plan, et pour beaucoup de territoires, c'était de surtout pas faire ça pour les raisons que j'ai expliquées brièvement. Et troisième sujet, les métropoles concentrent l'essentiel des grandes fonctionnalités du territoire, c'est-à-dire les emplois, les services, les centres culturels, les administrations, les centres commerciaux, etc. Donc évidemment, il y a bien un vrai truc de maintenir l'accès à tous les habitants du grand territoire à ces grandes fonctionnalités qui sont concentrées dans les cœurs de métropole. C'est pas vrai qu'à Grenoble, c'est une organisation un petit peu générale de notre territoire. Donc notre feuille de route pour créer la ZFE, c'était de venir toper ces trois sujets-là. Et pour faire ça, la ZFE de Grenoble-Alpes Métropole, elle a un cadre réglementaire qui est flexible pour venir piéger personne, y compris dans la réglementation. Donc déjà, la réglementation, elle est progressive. Il y a des dérogations, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne roule pas trop, il y a plein de gens, et notamment des personnes âgées, qui roulent 2000 km par an avec une voiture critère 4. Ça n'a aucun sens d'aller leur expliquer qu'il faut qu'ils prennent le vélo qui rentre dans le bus ou qu'ils changent leur bagnole pour une bagnole électrique, on est bien d'accord. Donc il y a une dérogation, si tu ne roules pas beaucoup, eh ben, tu as le droit de rouler avec ta voiture, elle pollue, mais ce n'est pas grave, tu ne roules pas beaucoup. Il y a des dérogations pour les gens qui travaillent en horaire décalé. Bah oui, bah, tu as besoin de faire tes trajets la nuit, oui, il n'y a pas de tram, il n'y a pas de bus, on ne va pas aller t'imposer de prendre le tram et le bus, évidemment. Donc il y a des dérogations. Et par ailleurs, la ZFE de Grenoble n'était pas permanente, elle était active que la semaine et que en journée, ce qui permet de venir restaurer de l'accès à un certain nombre de grandes fonctionnalités. Donc un cadre réglementaire qui a une forme de flexibilité pour venir piéger personne. Il y a des situations qui ne sont pas solubles en fait. La dépendance à la voiture, c'est un vrai truc, ça existe, personne ne le conteste. Donc il faut venir trouver des flexibilités. Et aussi et surtout, on l'a déjà beaucoup dit, mais je redis, notre sujet, c'est pas la contrainte, la règle et quelle dérogation et quelle heure et tout ça. Notre sujet, c'est comment tout le monde arrive à se déplacer avec un mode de déplacement qui soit faible émission. Oui. Et donc, on fait un dispositif d'accompagnement qui permet ça. Et donc, nos habitants, ils ont le droit d'avoir un conseil spécifique, de récupérer une carte bancaire prépayée avec 3000 euros dessus, avec laquelle ils peuvent venir s'acheter tous les services de mobilité du territoire, faire du train, du Citis, du bus, du Voy, du M-Vélo+, du M-Covoit Ligne+, etc., etc.
Oui, donc, excusez-moi, je pense que je vous coupe parce que là, c'est malheureusement, il faut qu'on arrête l'émission. Donc, merci. Je pense que le débat pourrait encore durer pendant des heures. Mais merci à vous deux d'être venus pour cette émission et de nous avoir expliqué tout ça. Et puis, merci aussi à Lou d'avoir co-animé avec moi.
Merci beaucoup de l'accueil.
Bruit de fond.
L'émission sur l'écologie de Radio Campus Grenoble.